Mémoire d'un continent.
Elikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Un prophète à l'œuvre, Simon Kimbangu. Bientôt, en 2021, cela fera exactement 100 ans que Simon Kimbangu a lancé ses premières phrases d'un prophète et on constate aujourd'hui que 100 ans après, ses paroles restent très très fortes. Elles ont un sens, elles mobilisent des gens au Congo, mais dans toute l'Afrique centrale et désormais de plus en plus en dehors du continent africain, soit dans les diasporas africaines et pas seulement congolaises, soit aussi parmi ces communautés d'origine africaine qui se sont établies un peu partout dans le monde, notamment dans la Caraïbe, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Donc c'est une figure, celle de Simon Kimbangu, qui véritablement pose problème, qui continue de nous interpeller, et heureusement nous avons un nouveau livre sur lui qui éclaire le personnage de lumière nouvelle. Ce livre, c'est La parole recouvrée, Simon Kimbangu, prophète et passeur de culture, que vient de publier Serge Mboukou. Serge Mboukou, nous avons déjà évoqué un peu l'homme dans cette période qui va de 1880, des années 1880 jusqu'au début du XXe siècle. Alors, vous le décrivez lorsque donc il donne ses premiers messages en 1921. Vous trouvez que cette date de 1921 est absolument une date fondatrice.
Oui, 1921 est une date fondatrice parce que c'est une date forte dans l'histoire même de la modernité. Pourquoi ? Parce que 1921, c'est la sortie de la Première Guerre mondiale. Nous sortons de la Première Guerre mondiale. Et 1921, c'est également une date où un certain nombre de consciences fortes sont en train de s'exprimer au niveau du monde. Des figures intéressantes travaillent au niveau de ce qu'on appellera la Renaissance d'Harlem aux Amériques. Amérique qui est elle-même marquée par une expérience de domination telle que nous la connaissons. Mais c'est aussi une année où, au fond, à Kinshasa, il y a véritablement une fermentation quasi pré-révolutionnaire, en fait, liée aux premières tensions de la mise en valeur de la colonie. Et là, tout d'un coup, il y a une véritable nervosité, une sorte de fébrilité qui est en train de véritablement se saisir de cet espace du silence, de cet espace congolais. Et donc, il y a le désir peut-être de commencer à parler. Mais à partir de quoi va-t-on parler ? Ben, on va parler à partir de la cuvette sémantique, du bassin sémantique ou des bassins sémantiques disponibles, à savoir le christianisme qui a été bien sûr porté par des prêtres catholiques, mais aussi par des églises baptistes. Il faudrait aussi discuter énormément de comment la conscience moderne travaille de façon différente selon qu'on se trouve chez des missionnaires catholiques ou selon qu'on est chez des missionnaires protestants. Mais il y a aussi des voies liées à l'exploitation économique telle qu'elle a lieu à Kinshasa, au niveau des firmes. Et là, il y a aussi des personnes qui viennent d'ailleurs. Et tout ceci, ou toutes ces situations, toutes ces conditions rendent prête, quelque part, l'émergence d'une parole nouvelle, d'une parole autre, d'une parole différente, mais d'une parole neuve et stimulante qui permet de penser, en fait, l'expérience de ces hommes engagés dans une séquence forte de leur histoire.
Alors, le 6 avril 1921 est la date qu'il faut retenir parce que c'est, disons, la première prise de parole publique, hein, si on peut utiliser ce mot, de Simon Kimbangu. Alors, que dit-il et qu'est-ce que ce message présente comme perspective et comme avenir à ses fidèles et au-delà de fidèles, à l'ensemble de ceux qui souffrent du colonialisme.
Simon Kimbangu a été catéchisé dans la mission Baptiste de Ngombe Loutété. Il a vécu toutes sortes de choses, y compris beaucoup de déboires. Il se cherche, comme on dit aujourd'hui dans la vie, et cette quête d'un mieux-être, cette quête de l'épanouissement, cette quête tout simplement légitime pour tout homme de l'accomplissement, le mène finalement, après un certain nombre de frustrations liées à la première trajectoire qu'il avait pensé lui, à savoir devenir pasteur, ce qui lui sera refusé pour des raisons liées au fait qu'il était difficilement pensable qu'un jeune Congolais prétende à cette fonction en dépit des qualités manifestes qu'il présentait. Il se retrouve à Kinshasa où il travaille aux huileries du Congo belge. Là également, il subit et il vit l'expérience de la frustration et du mépris. Il se débrouille comme il peut et il est complètement insatisfait. Mais riche néanmoins de cette expérience de la ruralité d'un côté et de l'urbanité de l'autre côté, il revient dans son village de Nkamba. Mais il est en fait complètement traversé, il est gonflé, il est saturé, aussi bien par les frustrations que par la révolte. Et lorsqu'il revient, eh ben, résonnent à son cœur les paroles fortes de la tradition vétérotestamentaire, tradition portée par les prophètes d'Israël dans leur révolte. Prophètes d'Israël qui réclamaient déjà la justice, qui contestaient les puissants et qui étaient des paroles de feu. Quand on parle, pense aux paroles d'un prophète comme Amos, il ose défier les puissants. Il y a toutes sortes de tensions à l'intérieur de cet homme. Eh bien, lorsqu'il revient dans son village de Nkamba, eh bien, à ce moment-là, l'esprit souffle à son cœur. Mais quel est cet esprit? Est-ce la révolte? Est-ce l'espérance chevillée au corps? Est-ce la vision malgré tout d'un avenir possible? Toujours est-il qu'il prend une parole où il proclame justement l'avènement des temps nouveaux, les temps de liberté, des temps de justice et des temps d'égalité pour tous les hommes, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Au fond, quelque part, il y a un nouvel humanisme qui s'inaugure à partir de sa prise de parole. Et forcément, dans un monde qui était un véritable glacis, où on ne pouvait pas parler, où c'était le mutisme et l'aphasie, quelque part, qui caractérisaient les hommes déshumanisés qui vivaient dans cette période-là, eh bien, c'était un véritable événement. Et cet événement inscrit Simon Kimbangu dans la tradition du prophétisme, à savoir celui qui porte la parole sur l'espace public et qui parle pour les autres et qui parle finalement des temps qui viennent. Et ce sont des temps d'espérance, en dépit du fait qu'il n'est pas naïf sur les combats, toutes sortes de combats qu'il va falloir livrer. En fait, Simon Kimbangu s'inscrit dans la perspective expérimentale de l'invention d'un destin pour un peuple.
Serge Mboukou, qui est notre invité d'aujourd'hui, explique que ce Simon Kimbangu, prophète, est en même temps chaman. Alors, qu'est-ce ça dit?
Oh mon Dieu. c'est une grande affaire, parce que cette conjugaison chamano-prophétique nous inscrit en fait au cœur d'un grand débat qui porte de façon sous-jacente des considérations sur la civilisation et la barbarie, en fait. Cette conjugaison chamano-prophétique nous ramène du côté, au fond, de ce qu'on appelait le grand partage entre les uns et les autres, entre l'Occident et les autres mondes, les mondes de la périphérie, entre les sauvages et les civilisés. Et le chaman, en fait, est peut-être cet homme qui est capable de prendre en charge le corps de l'autre, qui est capable de traverser les espaces pour endosser la souffrance de l'autre et l'aider à revivre. Là où le prophète s'inscrit quelque part dans la parole, dans la dénonciation, dans la consolation, dans l'ouverture théorique d'un monde autre, d'une vision différente, ben, le chaman est celui qui, précisément par la parole, est capable de prendre en charge, de ressusciter peut-être un corps en train de mourir. Et Simon Kimbangu, dans son originalité, conjuguera au fond les différentes donnes. La donne prophétique issue de son éducation et la donne chamanique issue aussi de son enracinement dans la grande tradition des Nganga telle qu'on les connaît dans l'espace congolais.
Il guérit des malades, enfin il répond aux besoins psychologiques et corporels de toutes les personnes qui, de plus en plus nombreuses d'ailleurs, qui viennent le solliciter pour ses qualités de chaman, mais qui viennent aussi parce que il énonce des paroles et des perspectives de liberté.
Oui. Je crois que on ne prend pas assez, et il y a un travail, j'en appelle aux historiens, aux intellectuels, mais aussi aux sociologues, aux anthropologues et aux philosophes, enfin bref, à tous les penseurs pour véritablement se pencher sur cette figure de Simon Kimbangu, parce qu'on ne prend pas assez la mesure et la portée de l'expérience de cet homme. En effet, lorsque Simon Kimbangu surgit, il surgit dans une terre de faiblesse, de maladie. Eh bien, le chaman, c'est celui qui prend en charge, bien sûr, les corps, mais c'est aussi, finalement, symboliquement, celui qui prend en charge un pays, un monde, avec l'intention d'aider ce monde à revivre. En tant que prophète, il parle du monde en déliquescence. Et au fond, il permet l'ouverture d'une fenêtre, d'un horizon d'espérance qui pourrait évidemment redynamiser au fond un monde, une société et des hommes qui s'étaient trouvés précipités dans une forme d'impasse sociale, politique, culturelle, imaginaire, légendaire, fabuleuse, etc., etc. Et là, de ce point de vue-là, c'est vraiment un personnage déterminant parce qu'il opère au cœur d'un véritable basculement paradigmatique entre un monde où on ne pouvait pas parler, où on n'avait pas la parole, où on était empêché de parler d'un côté, et celui qui brise au fond cet équilibre finalement pervers pour crier un message de dignité et de liberté.
Nous sommes en 1921, la Première Guerre mondiale vient de se terminer, les puissances qui ont remporté la guerre sont toutes des puissances coloniales et colonialistes, et un personnage comme Simon Kimbangu devient évidemment un danger public pour le système.
Absolument, c'est un danger pour le système parce qu'il remet en cause des mondes qui eux-mêmes finalement expérimentaient en d'autres lieux la précarité. C'est un personnage dangereux parce qu'il propose tout simplement une nouvelle intelligence du monde. Il propose une nouvelle intelligence de l'équilibre entre les groupes sociaux engagés dans la grande négociation historique. Il propose un nouveau partenariat, tout simplement. Il propose, au fond, un nouvel espace, la constitution d'un nouvel espace politique pour un vivre ensemble qui, jusqu'à présent, n'avait plus été considéré comme envisageable. De ce point de vue-là, c'est un visionnaire. Il voit. C'est un visionnaire, et si l'on considère que c'est un visionnaire, il faudrait presque revenir à l'étymologie de la théorie. C'est un vrai théoricien, si l'on considère que le mot de théorie vient du grec théoria, qui veut dire vision. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit l'avenir, qui voit les perspectives et les couleurs que pourrait prendre l'avenir, et donc il invente, en tout cas il inaugure la session d'invention d'un nouveau monde. Et de ce point de vue-là, nous avons tous à nous rapporter quelque part, aussi bien symboliquement, mais aussi concrètement au message de Simon Kimbangu pour continuer à réinterpréter ce message. Non seulement le message oral, mais aussi ses gestes, mais aussi sa posture. Le fait que la géographie, la légende dorée, la mythologie, mais aussi l'histoire, qui est attestée, puisque Simon Kimbangu a deux secrétaires, Finangani et Nzungu, qui au quotidien écrivent les faits qui se déroulent dans cette épopée absolument incroyable, où des faits extraordinaires se magnifient. Tout ceci est consigné dans des cahiers, tout ceci est dactylographié à la machine. Et il y a là une conscience historique de ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment besoin, il est urgent qu'on prenne la pleine mesure de la modernité qui s'inaugure avec ce personnage pour la compréhension aussi bien du présent, mais j'insiste, pour pouvoir penser l'avenir.
Oui, c'est ce qu'il dit dans sa langue, le Kikongo, que ses secrétaires traduisent en français. Je pense aussi que nous avons des traductions anglaises. Il y a énormément de choses. Il dit par exemple que un jour le noir sera blanc, le blanc sera noir. Donc c'est l'équilibre du monde qu'il annonce. Il dit également que il ne cédera pas aux colonialistes. Il est arrêté d'ailleurs, emprisonné loin de ses terres à Elisabethville. On pensait le couper de sa base parce que pour les colonialistes, son message était un message, disons, tribal pour les Congos. Et on n'a pas vu que, bien sûr, en l'éloignant de ses terres, on lui a permis de continuer à déclarer, à diffuser son message et de se répandre dans tout le Congo et au-delà aussi avec ses navigateurs, ses employés des compagnies maritimes qui circulent de l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Europe, quelques-uns vont en Amérique, le message finalement devient véritablement un message mondial. Alors les Belges ont quand même compris le danger qu'il y avait dans ce personnage. Beaucoup de prêtres de l'Église catholique souhaitaient qu'il soit exécuté. Finalement, il ne l'a pas été et il est resté de 1921 à 1951, finalement, le prisonnier le plus long de l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas Nelson Mandela, c'est Simon Kimbangu. Alors, vous parlez, vous utilisez un concept qu'il faudrait expliquer, le concept de rhizome de Simon Kimbangu. Que voulez-vous dire ?
Alors, il y aurait tant de choses à dire sur Simon Kimbangu. Le concept de rhizome, c'est un concept que nous devons au philosophe français Gilles Deleuze. Le concept de rhizome, c'est simplement le fait que, au fond, autour du message de Simon Kimbangu, se développe une sorte d'interconnexion, en fait, des différentes dynamiques, des différentes expériences qui se déroulent ici et là. Et cette interconnexion des différentes dynamiques qui se déroulent ici et là profite au fond de tout, se greffe absolument à tout. Et ce qui fait que la dynamique rhizomatique ne cesse pas de déjouer en fait les mécanismes qui sont mis en place par les autorités qui surveillent. Ainsi, lorsque on développera par exemple dans le cadre de cette espèce d'épidémie prophétique de la Kingunza, hein, on parle de légion des Ngunza, en Kikongo on dit Minkangu Azingunza, c'est-à-dire des légions d'une dissémination, une sorte d'épidémie en fait de prophétisme qui va marquer toute cette région du Congo. Mais en reléguant les Ngunza au Congo et dans d'autres endroits, même du Bas-Congo, mais en déplaçant les adeptes de Simon Kimbangu, eh ben, ces adeptes vont, au fond, éclairer l'expérience que vivent les hommes dans les différents endroits où ils se trouvent. Et à ce moment-là, eh ben, ces différentes peuples, ces différentes collectivités, ces différents groupes se reconnaissent dans le message du kimbanguisme et du coup reprennent l'initiative quelque part pour articuler, pour lire, pour entrer dans une véritable intelligence de leur expérience. Et donc à ce moment-là, au fond, Simon Kimbangu aura fourni un vocabulaire de lecture de l'expérience coloniale. De ce point de vue-là, oui, il sera un théoricien parce qu'il permettra de produire un alphabet qui permettra de comprendre, non plus à partir de la lecture des colonisateurs, de la compréhension des colonisateurs, puisque la compréhension des colonisateurs s'inscrit dans une mystique coloniale. Et en fait, il va falloir produire un nouvel alphabet, une nouvelle grammaire, qui, à partir des dominés que l'on considérait comme des insignifiants, vont relire l'expérience à l'aune de leur pratique quotidienne. Et donc, au fond, ils vont déjouer le piège idéologique, rapport faussé à la réalité, pour produire la mystique coloniale de son aspect apparemment positif en le ramenant à sa vérité, à savoir une expérience de colonisation, même si, effectivement, on peut considérer que, par une sorte de conséquence secondaire indirecte et non voulue, il y aura une révélation de la créativité des peuples colonisés qui vont se servir, au fond, de l'expérience coloniale pour, à leur tour, réinventer leur destin, se réapproprier leur histoire et même capter ce qui est de plus vivant, quelque part, dans la tradition judéo-chrétienne, dans les traditions intellectuelles, pour pouvoir relire à nouveaux frais, à partir de leur propre expérience, quelque chose d'original.
Merci à vous, Serge Mboukou, pour cette approche nouvelle de Simon Kimbangu que vous développez dans votre dernier livre, La parole recouvrée, Simon Kimbangu, prophète et passeur de culture. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent. Réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.